dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream.
My definition, my definition, my definition is this, my definition, my definition, my definition, my definition is this.
I have a dream.
Bonjour escapadiens, escapadiennes. Je suis heureuse de vous retrouver dans le royaume de l'intermédiaire. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un concept inventé par Paul Virilio, qui n'est autre que la dromologie. Alors, quel est ce nouveau mot du royaume de l'intermédiaire? Alors, c'est un mot intermédiaire, donc préconçu par Paul Virilio, qui n'est autre qu'un partisan d'une architecture oblique. Il est principalement connu pour ses écrits sur la technologie et la vitesse dont l'Alliance constitue à ses yeux une dromosphère. Il a également étudié les risques inhérents à la technologie. Mais tout d'abord, parlons un peu de sa biographie. Je vous fais découvrir ce personnage haut en couleur avec une myriade de métiers. Paul Virilio donc est né en 1932 à Paris d'un père italien et d'une mère bretonne. Enfant, il vit les bombardements de Nantes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ceux-ci vont non seulement le marquer profondément, mais orienter toute sa future réflexion et sa compréhension du monde. Nous étions bombardés par les Alliés. Pour un môme de 10 ans, il y a là quelque chose de philosophique. Ceux qui nous tuent, on les aime. Ceux qui nous occupent, on les hait. Je suis l'enfant de cette perplexité, de cette ambiguïté. À cette époque naissent les thèmes qui seront au centre de sa réflexion, la guerre comme état général du monde contemporain, la vitesse de destruction comme facteur déterminant et l'espace de la ville en voie d'anéantissement, la face mortifère de la puissance technique. Il suit une formation de maître verrier à l'École des métiers d'art de Paris, ainsi que les cours de Vladimir Yankilevitch et de Raymond Aron, qu'est-ce que je l'envie, à la Sorbonne. Il collabore aux vitraux d'Henri Matisse à Saint-Paul-de-Vence et de Georges Braque à Varengilles. En 1950, il se convertit. Avec sa femme, il dirige une galerie de peinture rue de l'Ancienne Comédie avant de monter en 1955 leur atelier de vitrail. Et ceci sera évidemment toute leur vie une belle myriade de couleurs à travers des architectures nouvelles auxquelles ils pourront évidemment faire découvrir leur créativité. Il est appelé en 1956 pendant la guerre d'Algérie et puis continue en 1958 à entreprendre des études, mais alors là, de phénoménologie sur les territoires militaires, en particulier sur les bunkers du mur de l'Atlantique. C'est là que s'ouvre une nouvelle porte de connaissances et ensuite il fonde avec l'architecte Claude Parent, le sculpteur Maurice Lipsy et le peintre Michel Carade le groupe Architecture Principe. La revue du même nom, 10 numéros, puis suivi du manifeste pour un architecte oblique. En 65, il met sur pied l'exposition « Exploration du futur ». Dans des salines d'arc de Sénas et réalise l'année suivante avec Claude Parent l'église Sainte-Bernadette de Banlay à Nevers. En 1967, il réalise le centre de recherche aérospatiale de l'entreprise Thomson Houston à Vallisi-Villacoubli. En 68, il intègre l'école spéciale d'architecture ESA de Paris comme chef d'atelier. Donc, comme vous pouvez le voir, Paul Virilio entre dans différents domaines. Au comité de rédaction de la revue Esprit, cofondateur en 72 de la revue Cause Commune, en compagnie de Jarre Briandeau et de Georges Perec, il contribue par partir en 75 à la revue Traverse. Ainsi, il dirige la collection d'espaces critiques aux éditions Galilée, dans laquelle il publie espèce d'espace, j'ai fait une petite inversion, avec Georges Perec, ainsi que les textes de Félix Gattari ou d'Ignacio Romanet, sans compter plusieurs de ses propres œuvres. En 1975, il est le curateur et le coordinateur du catalogue de l'exposition Bunker Archéologie au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Voici son panel. Maintenant, parlons un petit peu de son intervention dans sa carrière architecturale. Évidemment, après ses recherches photographiques sur les bunkers des murs de l'Atlantique, il pense à l'espace différemment et cherche à définir une pensée topologique sous l'influence de certaines théories. Pour lui, le corps engage l'espace et l'espace doit être redéfini par rapport au corps. C'est ainsi qu'il théorise en 64, avec Claude Parent, l'architecture oblique, qu'il implique une perception continue de l'espace. Un de leurs projets est un instabilisateur pendulaire, deux espaces inclinés dans lesquels il pensait s'enfermer indépendamment l'un de l'autre pendant 6 mois pour voir comment la pente oblique pouvait changer l'idée de la perception de l'espace. Ainsi, c'est pour cela qu'ils activent en 68 des événements conduisant à une rupture et à une anarchie de la droite libérale et d'un fils ouvrier, ainsi réalisant la majeure partie de leur vie dans ce bunker cassé en deux, avec deux plans inclinés reflétant l'idée d'une dialectique négative suspendue. On mélange ainsi les deux visions totalement opposées dans la politique, dans l'idéologie, et on la transmet par le biais de l'architecture en disant « tout cela est oblique ». Tout cela ne peut pas être vertical parce qu'on oppose deux idées totalement opposées. Ainsi, cela ne peut faire que des lignes obliques, cassées, mais du coup, qui ne peuvent pas tenir dans une seule catégorie. Ensuite, sur le plan philosophique, nous avons Ian James qui a dégagé 6 thèmes dans la pensée de Virilio. La politique de la perception, la vitesse virtualisation, guerre, politique et art. Mais John Armitage les réduit en 3, c'est-à-dire en architecture, en art et en technologie. Pour Virilio, la vitesse détache brutalement du réel. Mais avant de développer ce thème de dromologie qu'est la vitesse, je vais vous faire partager toujours un petit moment musical coréen, je ne change pas, qui s'appelle Tensehem. Tell me it's not a dream.
Whenever you come, 할 수 없는 예감. 아주 잠시 두 눈을 깜빡이면 never felt like this. 또 어느새 난 너의 발자국 따라 걸어가고 있어. 잊었던 계절의 모퉁이에서 혹시 우리는 마주했었을까. 잠시 또 머리를 털어내봐도 웃음이 새어나오네. 고장난 걸까. You're the light to my darkness. I just realized it. 여름 밤 축제 불꽃들처럼 쏟아져 내려. When you tell me your dreams, I don't need a reason. 고장난 걸까? You're the light to my darkness. I just realized that 어두운 밤에 불꽃들처럼 쏟아져 내려. When you tell me your dreams, I don't need a reason.
아, 노 세티 온 컴파니 드 텐세헴 텔 미 잇츠 노 어 드림. 밴드 오리지날 pour les puristes des dramas de la reine des larmes. Joli petit drama romantique. Ah là, alors vous êtes toujours en compagnie de Pascal dans le royaume de l'intermédiaire et je vous parlais de ce monsieur Paul Virilio, personnage haut en couleur qui va faire converger trois concepts totalement nouveaux qui vont être la dromologie par le biais de l'architecture, de l'art et de la technologie. La dromologie, c'est l'étude du rôle joué par la vitesse dans la société moderne. Ce néologisme créé par l'urbaniste et philosophe Virilio vient du grec dromos, la course, et logos, la science. Pour l'inventeur du concept, la philosophie a longtemps ignoré la vitesse, considérant que le temps, c'était la durée. Le terme ne commence à avoir du sens qu'avec la révolution des transports au XIXe siècle et se poursuit avec les technologies de la communication au XXe siècle. L'invention de la théorie de la relativité posera la vitesse comme un ultime absolu. Écologie du temps, accélération. Pour Paul Virilio, la révolution industrielle est aussi une révolution dromocratique. Car la vitesse qu'elle a fabriquée a considérablement modifié l'espace et le temps dans nos pratiques. Au XVIIIe siècle, les déplacements d'un lieu à l'autre, à cheval ou en bateau, étaient composés de trois phases, le départ, le voyage, l'arrivée. La phase voyage était un moment de découverte. Puis, avec la généralisation de transports de plus en plus rapide, le déplacement ne se pense plus qu'en termes de départ et arrivée. Le voyage en lui-même n'est plus un moment de découverte, mais un temps qu'il faut occuper pour écourter la sensation de durée. Au XXe siècle, avec l'apparition des nouvelles technologies et des transmissions à grande vitesse, il est même plus question de départ ou de voyage. Les données nous arrivent sans avoir vraiment voyagé. Nous n'habitons alors plus la géographie, mais un temps devenu mondial. Nous vivons désormais dans l'instantanéisme, qui consacre l'épuisement du temps par la vitesse. L'auteur constate que la vitesse est toujours considérée comme un progrès. Il nous rappelle qu'aucune machine inventée au cours de l'histoire n'a été une machine pour ralentir. Il n'y a qu'en chimie que l'on trouve des freins, par exemple des molécules qui freinent la progression d'une maladie. Ceci a des conséquences importantes sur lesquelles il faut s'interroger, d'où l'utilité de la dromologie. Par exemple, dans le domaine militaire, l'utilisation de technologies de plus en plus rapides conduit, selon l'auteur, à une démission humaine au profit de la technologie. L'espace-temps des guerres et l'espace-temps des armes, hors les armes actuelles, contrairement aux flèches, aux canons, vont plus vite que la vitesse de décision des hommes. Les cracks boursiers sont eux aussi symptomatiques des conséquences de la vitesse exponentielle des transactions traitées par des algorithmes, transactions à haute fréquence. Un ralentissement. Dans les années 80, se sont développés divers mouvements « slow », qui se propose de ralentir le rythme de vie. Slow food, slow cities, vie durable. Slow travel, slow money, slow made. slow science, etc. Toutes ces initiatives portent une réflexion sur la distinction entre temps présent et temps long, et la nécessité de ralentir les processus afin de se les réapproprier ou de les redécouvrir. L'accélération produit la fuite hors d'ici et de maintenant. Par la vitesse, l'homme poursuit l'utopie d'un monde sensible, réduit à rien. La vitesse appelle et provoque le vide, réalisant le rêve le plus fou de la métaphysique, la fin du monde physique. La vitesse est aussi la mise à néant des autres, qui ne font que passer avant de disparaître. À tout jamais, la décomposition du lien social n'est qu'un effet de l'accélération, car la vitesse disperse et isole, menace la vie démocratique qui nécessite lien social, rencontre et discussion. La ville n'est plus qu'un échangeur routier ou ferroviaire et non plus un lieu d'échange sociaux et culturels. Absent au monde, absent aux autres, le voyageur est aussi absent à lui-même. Il est passé de l'être là à n'être plus là. Les médias, comme les nouvelles technologies, sont soumis à la dictature de la vitesse. Avec eux, l'homme s'absente du monde car mouvement et aveuglement ont partie liée. La vision exige l'arrêt et le repos, par exemple en regardant une peinture. Les technologies suppriment la nécessité de se déplacer dans l'espace. L'accélération absolue entraîne la fin de l'être dans le monde. Ainsi, la vitesse nie l'espace réel et empêche la réflexion. Car quand la vitesse s'accroît, la liberté décroît. S'abstraire de la vitesse est une utopie, mais prendre conscience de ses effets, être lucide face à elle, implique d'être une forme de liberté. La vitesse est guerre. Virilio établit un lien direct entre vitesse et violence, entre vitesse et guerre. Ainsi, les nazis ont choisi la vitesse lors de la Seconde Guerre mondiale. La vitesse est issue de la guerre et la disparition est une création militaire avec ses avions furtifs. Inversement, la vitesse est l'enjeu de la guerre et le contraire d'un progrès, car elle est dans son essence intime une violence exterminatrice. Une guerre non seulement aux autres, mais aussi au monde. Virilio définit trois types de guerre. Le premier type est la guerre civile, le deuxième type une guerre entre armées et le troisième type est une guerre contre les civils menée par des gangs, des mercenaires, des terroristes. Aujourd'hui, la guerre est devenue un spectacle avec ses images détachées de la réalité, de la destruction des images et des corps, comme par exemple la guerre du Golfe ou autre. Pendant des années, Virilio nomme ce processus déréalisation cinématique. En même temps, le souci de sécurité territoriale est remplacé par un souci de sécurité et d'avance technologique et une nouvelle réalité d'événements transmis en temps réel conduit à un chaos culturel, tant dans la sphère privée que dans une sphère publique détériorialisée, mais politisée et militarisée. La vitesse et le temps. Pour Virilio, les nouvelles technologies donc ont abouti à une inertie générale. Le temps réel de l'interactivité a dépassé l'espace réel. La violence multiforme, faite au temps, à l'espace, aux images, aux mots, aux pensées, au corps, n'est pas seulement symbolique. Elle concerne les affects, puisque l'information mondiale en temps réel produit des émotions collectives, planétaires, que Virilio nomme un communisme des affects. Une exacerbation des haines, des imprécations, des violences verbales et physiques résulte de ce monde surinformé et désinformé à la fois. Virilio définit en réponse une écologie grise. Qui serait celle de l'économie du temps pour retrouver des repères temporels? Nous avons la vitesse de la réception et de la perception. Mais en attendant, poursuivrons avec toujours une petite pause coréenne, toujours en compagnie de Tensehem avec The Way to Love You, Lose You, pardon. Mm-hmm.
never figure out how to face away from you. Closing my eyes, I turn slowly from you. Would I ever figure out how to stay away from you?
TNCM, voilà The Way to Lose You. Alors j'ai choisi ce morceau, comme vous avez pu remarquer, justement parce qu'il prend le temps de poser ses mots et ses notes avec une vitesse très slow que j'ai appréciée, et nous avons le temps ainsi de déguster ses tonalités un peu originales et cette voix qui porte haut. Alors, vous êtes toujours en compagnie de Pascal dans le royaume de l'intermédiaire. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur le 102.0, sur le 103.3 et sur le 104.1, c'est cela ? Voilà, je ne me suis pas trompée. Et nous continuons toujours avec ce monsieur Virilio qui nous parle de la vitesse. Il a évidemment fait le point sur plusieurs thèmes de vitesse de guerre, vitesse de temps et maintenant vitesse de perception. Virilio peut être considéré comme un continuateur des réflexions de Walter Benjamin ou Diocel sur l'importance des circonstances historiques dans l'organisation de la perception. Pour lui, l'art n'est plus une représentation, mais une présentation qui mène à l'aveuglement. Là encore, le temps réel remplace l'espace réel. Ainsi, les images de la destruction, exemple du World Trade Center le 11 septembre 2001, seraient l'archétype de ce qu'il nomme l'esthétique de la disparition, qui fait disparaître l'absence elle-même au profit du temps réel. L'objectif photographique ou cinématographique est devenu l'arbitre de la vérité et du savoir. La vision dépend des pixels d'un écran informatique qui n'ont rien de commun avec le monde réel et ne font que produire des images statistiques, dont des illusions rationnelles. En 88, dans La machine de vision, il prédit la production d'images par des machines pour d'autres machines et l'obsolescence de la perception humaine due à l'intelligence artificielle. Il étend cette notion à la démocratie représentative qu'il voit être remplacée par une démocratie présentative, voire virtuelle. Pour lui, lors des campagnes électorales, les images sont plus puissantes que les mots pour créer du consensus et l'on passe du politiquement correct à l'optiquement correct, sans possibilité d'images dissidentes ou alternatives. Nous avons aussi la vitesse due à un accident, l'accident dû à la vitesse. La notion d'accident apparaît pour Virilio comme l'ultime révélateur des dégâts résultant du progrès. L'accident n'est plus dû au hasard, mais il est systémique et montre l'envers de la science. La vitesse fait de l'accident une catastrophe qui peut mettre fin à notre époque. Car nous, l'assaut de la vitesse, notre relation aux dimensions, à la grandeur nature est bouleversée. L'accident provient de l'écrasement des dimensions, des rapports de proportion. Croire que l'on peut éviter est un déni. Virilio propose donc une science des accidents, possible pour peu que l'on accepte que toute innovation technologique générera un accident dans le futur. Il est en effet nécessaire de retourner l'accident pour continuer à habiter le monde. Si l'accident intégral implose en nous, nous devons trouver une réaction. Virilio n'est pas un Cassandre, au contraire, il propose des solutions pour aller au-delà du fatalisme. Il souhaite décrire le désastre pour pouvoir mieux s'y opposer. Il pratique un catastrophisme d'éveil. En 2003, l'exposition « Ce qui arrive » préfigure le musée des accidents que Virilio souhaite depuis longtemps créer en même temps qu'une université du désastre. Alors, soyons réceptifs. Des reproches ont été faits auprès de Virilio quant à la forme de ses ouvrages, en particulier l'agaçante stratégie consistant à mettre l'accent sur certains mots et plus particulièrement sur d'improbables néologismes en les écrivant en majuscules. Virilio fait partie de ces auteurs pris à partie. Ainsi, il est parmi tant d'ouvrages tellement controversés comme l'imposture intellectuelle sur laquelle je vous ferai connaître quelques bribes et pourquoi elle fut arrivée par certains écrivains. Ce qui est présenté comme science est un mélange de confusion monumentale et de fantaisie délirante. Par ailleurs, les analogies scientifiques sont les plus arbitraires qu'on puisse imaginer quand l'auteur ne sombre pas tout simplement dans l'ivresse verbale. Et certaines critiques, comme cette imposture intellectuelle, n'est pas loin ou peut néanmoins saluer à l'appel à la résistance, créative de ce dialogue proprement passionné. Qu'importe la réalité objective des énoncés scientifiques, on se laisse facilement séduire par l'alchimie linguistique d'un Virilio tour à tour penseur de la vitesse, urbanisme hanté, souvenir de la Seconde Guerre mondiale, christique postmoderne et citoyenne du monde. L'urbanisme éclairé cède le pas au visionnaire de l'apocalypse. Il appelle à la résistance à la tyrannie du temps réel. Mais il y a une petite brèche pour laquelle je vais l'ouvrir aussi et dans laquelle nous sommes aussi conscients d'y participer. C'est une forme de brèche qui est l'administration de la peur. Et pour cela, je vais vous refaire une petite pause musicale, toujours en compagnie de Tensei Hem avec What's the Spring. CM, What's the Spring? Vous êtes toujours en compagnie de Pascal dans le royaume de l'intermédiaire et qui termine ce chapitre de Virilio avec évidemment le thème de cette résistance, la résistance de la tyrannie, du temps réel et de la perception et de dressage oculaire et capteur sensoriel. Et il en arrive aussi au domaine de l'administration de la peur. Nous vivons dans l'administration de la peur. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord que la peur est devenue un environnement, un paysage quotidien. Autrefois, les guerres, les famines, les dangers étaient localisés et circonscrits dans le temps. Aujourd'hui, c'est le monde lui-même, limité, saturé, manipulé, qui nous étreint et nous stresse. Crise boursière contaminante, terrorisme indifférencié, pandémie fulgurante, suicide professionnel, la peur est monde, panique, au sens premier du terme. L'administration de la peur, cela signifie aussi que les États sont tentés de faire de la peur, de son orchestration, de sa gestion, une politique. la mondialisation ayant progressivement rogné les prérogatives traditionnelles des États, celles de l'État-providence, il leur reste à convaincre les citoyens qu'ils peuvent assurer leur sécurité corporelle. La double idéologie sanitaire et sécuritaire peut se mettre en place faisant peser de réelles menaces sur la démocratie. Paul Virilio nous montre comme ça ainsi la propagande du progrès. L'illuminisme des nouvelles technologies sont les vecteurs inespérés de la peur car ils fabriquent de la frénésie et de l'hébétude. Toute chose qui rende possible, après la dissuasion nucléaire de la guerre froide, une nouvelle forme de dissuasion civile dont le génie génétique pourrait s'emparer pour domestiquer l'être, le rendre plus adapté à nos nouvelles conditions raréfiées de vie. La peur a certes toujours existé, mais la voici aujourd'hui administrée, orchestrée, politisée. Ce sentiment est dû à une hypermodernité qui abolit les distances, pollue l'espace et plonge les sujets à connecter à l'actualité dans un live permanent. Mais ce monde du mouvement permanent est aussi celui des communautarismes et du repli sur soi, effets collatéraux d'un monde rendu inhabitable par cette constante compression du temps. Certains seront sceptiques devant une pensée qui semblerait nostalgique d'un monde d'hier rythmé par les saisons et les moissons. Pour Virilio, il se refuse le catastrophisme comme le rétropédalage. Il pense simplement, comme la philosophe Hannah Arendt, que la terreur est l'accomplissement de la loi du mouvement. Bel article dans Le Monde avant 2018, puisque c'est en 2018 que M. Virilio nous quittait. Il se voit parfois renvoyé à un piège. Ses travaux innombrables reflètent la même expérience de survitesse qu'il critique en offrant des images fragmentées, des instantanées de l'état du monde à un moment donné. Des faits, des histoires qui submergent le lecteur. Il n'en propose ni l'analyse ni les commentaires et ne théorise que leur combinaison et leur juxtaposition. Monsieur Virilio conclut, et je conclurai l'émission ainsi, « Pareille démarche ne demeure pas moins ambiguë, et donc sujette à quantité de malentendus, surtout elle demeure exposée à ces questions. Par quoi au juste remplacer le monde actuel et comment s'y prendre ? Ces interrogations demeurent évidemment sans réponse pour lui. » Cependant, ses qualités visionnaires ont aujourd'hui été reconnues. Une fois écartées les prétentions scientifico-prospectives, une pensée bien vivante apparaît qui s'inscrit au porte-à-faux contre le mythe communicationnel du rapprochement des peuples par des nouvelles technologies. Et la deuxième vision qui est reconnue de Virilio, c'est la quantité de thèmes devenus aujourd'hui évidents dans la réflexion politique et l'action militante ont été abordés et explorés par Virilio à un moment où personne ou presque personne ne s'y intéressait. Je fais cette belle hommage à ce monsieur et je vous invite à le découvrir. Je vous dis à au mois prochain, sûrement avec l'imposture intellectuelle. À bientôt.
My definition is this, my definition. My definition.